Bonjour à tous. C'est une joie de se retrouver aujourd'hui avec ce temps en particulier. Je rends grâce à Dieu parce qu'avec ces moyens techniques, on peut quand même continuer à faire des cultes et à vivre ce temps de culte chaque dimanche. Et le thème que nous allons voir aujourd'hui est « Vivre comme des enfants de Dieu ». Dire qu'on est enfant de Dieu, c'est une folie pour notre époque. Dites à vos amis, à vos collègues, je suis enfant de Dieu. Ils vont se dire, mais c'est un illuminé. Pour qui il se prend? C'est ça qu'il faut d'abord vivre en enfant de Dieu, témoigner qu'on est enfant de Dieu. Et plutôt dire qu'on est chrétien, c'est plus sage que de dire le terme enfant de Dieu. Et Jean nous donne un texte qui nous permet de voir en quoi il est nécessaire de vivre en enfant de Dieu. Et ce texte se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. Je vous invite à prendre le texte. Nous allons lire ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché c'est la violation de la loi. Or vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêche pas, et si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Amen. Je vais prier. Je te remercie, Seigneur, pour ce texte que tu nous as laissé dans ta parole. Je te prie que tu puisses nous éclairer par ton esprit à comprendre ce texte, le message particulier que tu veux nous laisser aujourd'hui. Je te prie que chaque personne qui écoute ces messages puisse être renouvelée. Et je te prie que tu puisses mettre tes mots en moi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as laissé ton esprit qui agit avec puissance en nous. Merci, Seigneur, de nous renouveler aujourd'hui. Amen. Mon premier point, c'est « Les disciples de Jésus sont enfants de Dieu ». En fait, le premier verset dit « Quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ». Jésus nous dit clairement pourquoi le Père a témoigné son amour. C'est pour qu'on soit enfant de Dieu. Et Jean, à ce moment-là, il est émerveillé par ça. Et en fait, être enfant de Dieu, c'est un privilège que Dieu nous accorde. C'est une source d'espoir pour nous. Un théologien a dit qu'on pourrait traduire le premier verset par « Vivez quel amour, voyez quel amour singulier, insolite, le Père nous a donné ». Et le fait d'être enfant de Dieu, c'est être né de Dieu. Et le fait qu'on soit né de Dieu évoque son intervention. Il nous a adoptés. Il nous rend héritiers du ciel. Il restaure avec puissance le cœur des enfants du diable qui se sont tournés vers Dieu. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, « Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est un privilège que Dieu nous accorde d'être ses héritiers. » Quand Dieu nous adopte, nous ne pouvons plus redevenir enfants du diable, car on est scellés par le Saint-Esprit. On ne peut pas perdre le salut. Et si on pouvait le perdre, ça signifierait qu'on pourrait le gagner. Alors donc, on serait assez bon, ça voudrait dire qu'on pourrait mériter le salut. Donc si on peut gagner le salut, c'est par nos propres efforts. Alors c'est un mérite. Et si c'est un mérite, ce n'est plus une grâce. Mais Dieu nous fait cette grâce énorme d'être ses enfants et pour toujours. C'est le plus grand des privilèges. Et par la, ferme, par le sacrifice de Jésus, on a la ferme assurance que Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse potentiellement perdre cette grâce qu'il nous offre. Jésus fait toutes choses avec efficacité. Le verset 3 nous dit « Toute personne qui possède cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Jésus parle de l'espérance qu'il cite au verset 2. L'espérance en notre Dieu, au retour de Christ, qui fait que quiconque possède cette espérance sera semblable à lui parce qu'il le verra tel qu'il est. Et qu'il sera tel qu'il est. Qu'il sera 100% pur comme Jésus est pur. Tite, chapitre 2, verset 13, dit « En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Être enfant de Dieu, c'est profondément espérer en notre Père, qui accomplit toute sa parole de manière sûre et parfaite. Et le Fils de Dieu aime le Père, et les enfants de Dieu vivent par amour pour le Père. Et on cherche à vivre comme le Fils de Dieu, et comme le Fils de Dieu a lui-même vécu. Et on ne peut pas dire qu'on vit en Christ si on ne se comporte pas comme lui, en fait. Car l'enfant de Dieu veut tendre à une vie à l'exemple du Fils unique de Dieu, qui est venu pour nous montrer l'exemple. Rémi Gomez dit dans son livre « La divinité du Christ face à l'islam » Suivre Jésus, c'est prendre pour modèle un homme qui a réussi là où aucun autre n'a réussi. » Fin de citation. Aucun homme n'est un modèle parfait. Moïse, il a frappé deux fois le rocher. David, avec Bathsheba. Jean-Baptiste, il a douté de Jésus. Et Pierre, il a renié Jésus. Il a mangé avec les pécheurs. Il a adopté les valeurs des pécheurs. Tous ces hommes sont pécheurs. Ils sont des exemples seulement à certains moments de leur vie. Mais Jésus est l'exemple parfait dans toute sa vie, dans la totalité de son existence. Une question se pose. Le Fils est-il encore le Fils unique de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu? En fait, le mot « Fils » n'a pas toujours le même sens dans tous les textes bibliques. Jésus est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu, avec un grand P, il est l'expression de la pensée de Dieu. Jésus n'est donc pas devenu fils de Dieu au moment où il s'est fait baptiser, comme le disaient les faux enseignants du temps de Jean, pour replacer le contexte. Il est le fils unique éternel. Il est le fils depuis toujours et pour toujours. Il vient du Père, comme on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, Jésus est dans le sein du Père. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 28, Jésus est sorti du Père. En fait, le Fils unique est Dieu par nature, alors que nous ne sommes pas Dieu. Désolé de vous l'apprendre. Et nous devenons les enfants de Dieu par adoption en naissant de nouveau. Et cela, c'est notre source de motivation pour chercher à vivre comme Jésus a vécu. Et car Dieu nous rend participants à sa nature divine. Je vais vous lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 3-4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de devenir dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Et là, j'en arrive à mon deuxième point, qui est être enfant de Dieu, c'est vivre en dehors du péché. En fait, à l'époque de Jean, les faux enseignants ne vivaient pas une vie qui rendait gloire à Dieu. Pour eux, la connaissance intellectuelle était primordiale. La conduite dans la sainteté importait peu, c'était secondaire pour eux. Et sans se mentir, de base, on est tous comme eux. On est tous comme ça. Et surtout dans notre culture française, dans la culture des intellectuels, des lumières. Mais être enfant de Dieu, c'est vivre pour notre Père qui est saint. Et parce qu'on aime et qu'on connaît notre Père, on fuit le péché. Péché, en fait, ça signifie littéralement rater la cible, manquer le but. Le verset 4 nous dit Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Jean ici, en fait, il parle de la loi de l'amour, et non d'obéir à une liste de prescriptions à appliquer sans comprendre. Qu'est-ce que la loi de l'amour? C'est les deux commandements de Jésus. Je vais vous les lire dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 38. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier des commandements et le plus grand. » Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Le verset 6 nous dit, « Celui qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. » Et la première partie du verset 8 répète la même chose différemment. Il dit, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et le verset 9 nous dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » En fait, Jean utilise un vocabulaire particulier dans ce texte. Il est essentiel d'être attentif à ce qu'il dit pour bien le comprendre. Sinon, on peut rapidement mal comprendre ses propos. Et au verset 8, Jean parle de celui. Et au verset 9, il parle de quiconque. Et la définition de quiconque, c'est qui que ce soit. Jean dit donc qu'absolument tous les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché, puisque celui qui est du diable pratique le péché. Le verset 6 pose une question, c'est peut-on voir Dieu ? Sachant que Dieu est invisible, mais il montre qui il est en Jésus. Jean dit aussi dans son évangile, au chapitre 6, verset 46, que personne n'a jamais vu Dieu, sauf celui qui est Dieu, donc Jésus. Ce que veut dire Jean ici, c'est qu'on voit Dieu au travers de la sainteté. Il nous remplit de son esprit. Et nous montrons l'œuvre de Dieu en vivant comme Jésus. Un enfant de Dieu, pardon, verset 10, c'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. En fait, un enfant de Dieu est reconnu car il fuit le péché. Un chrétien ne peut pas jouer à cache-cache et vivre de manière sainte. C'est complètement contradictoire. C'est pour cela que les chrétiens ont un impact auprès des autres et amènent des personnes à Jésus par leur témoignage. C'est pour cela qu'ils sont persécutés parce qu'ils vivent la volonté de Dieu. Et en fait, Jean, il souligne qu'il y a une reconnaissance des enfants de Dieu, et ça ne laisse pas indifférent. La parole de Dieu se propage par nos témoignages en vivant comme des enfants de Dieu. La prédication de l'évangile, c'est à la fois le témoignage de notre vie et l'enseignement de la mort de Jésus et de sa résurrection. Les deux sont inséparables. Et même en étant enfants de Dieu, nous péchons encore. Alors pourquoi Jean dit que nous ne péchons plus? En fait, il y a une différence entre vivre dans le péché, c'est-à-dire vivre sous le joug du péché, et commettre un péché. La différence entre quand on vit dans le péché et quand on vit en Christ, c'est que lorsqu'on vit dans le péché, on ne tient pas compte de l'immensité de la grâce que Jésus est venu nous apporter. Donc on diminue la grâce de Dieu, et on diminue la gravité de notre péché. Donc on ne peut pas être sanctifié par le Saint-Esprit. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. En fait, notre état de pécheur avant était notre plaisir, par nature. Par nature, on chérit le péché. Alors que le plaisir spirituel des enfants de Dieu se trouve dans la sainteté. L'objectif est de détourner nos regards du péché pour les pointer vers Christ. Personnellement, la première fois que j'ai lu le Nouveau Testament, je n'étais pas encore converti. Et lorsque j'ai terminé la lecture de ce livre, j'ai trouvé qu'il contenait vraiment plein de valeurs que je pourrais appliquer pour être une meilleure personne et être meilleur dans ma vie. Et j'ai tenté par mes propres forces d'être meilleur. J'ai fait attention à mes faits, à mes gestes, à mon vocabulaire, et finalement je n'y arrivais pas. J'étais encore plus déçu de moi-même. Et ça, mes amis, ça s'appelle du légalisme. C'est pas la grâce. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais encore plus pécheur que ce que je croyais et de prendre conscience que j'avais besoin de Dieu, car je n'ai pas la force d'être meilleur sans Dieu. sans son intervention pour me sanctifier, pour me purifier. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on est sanctifié, mais c'est en laissant le Saint-Esprit agir en nous. Lorsqu'on est disciple de Jésus et qu'on commet du mal, le Saint-Esprit nous montre notre péché. Il s'attriste et nous fait prendre conscience de notre péché et ça doit nous amener à la repentance. En fait, Jean, dans son texte, il oppose la notion de vivre dans le péché et de vivre dans la purification. Et dans le chapitre d'avant que Vincent a prêché, au chapitre 2, verset 1er, Jean dit qu'il écrit cette lettre qu'on ne pêche pas. Ce texte démontre que la cible de la vie chrétienne, en fait, est de ne commettre aucun péché. Jean ne dit pas qu'un chrétien ne pêche plus du tout, mais qu'un chrétien ne vit plus sous la loi du péché. Le texte dit qu'un chrétien ne peut pas pécher. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable de commettre un péché, mais ça veut dire qu'il n'est pas capable de vivre dans le péché de manière habituelle sans s'en rendre compte. Donc les chrétiens pêchent encore. D'ailleurs, les versets 2 et 3 du chapitre 3 nous montrent que déjà nous nous purifions, mais que nous ne sommes pas encore assez purs, et que lorsque Jésus reviendra, nous ne commettrons plus aucun péché. Donc si on n'est pas assez pur, c'est qu'on pêche. Souvent on commet du mal, on est désagréable avec notre famille, nos collègues, et même on peut faire des grosses chutes, on peut tomber dans un péché qui a de lourdes conséquences, même en étant enfant de Dieu. Mais l'habitude de vivre dans le péché a été brisée. On n'a pas encore atteint la perfection, mais nous y aspirons. Et nous y arriverons car Jésus est parfait. Et la réalité est que lorsqu'un chrétien commet un tort, un péché, il ne prend pas à la juste valeur de ce que Jésus a fait à la croix. Et honnêtement, on prend trop souvent à la légère la croix de Jésus. Quand je blesse ma femme, je prends à la légère la croix de Jésus. Quand je me plains de ce que j'ai, de ne pas avoir assez, je prends à la légère la croix de Jésus. En fait, ce que j'en veux dire, c'est que le fait qu'on rejette le péché dans notre vie est un signe que nous sommes enfants de Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on peut encore pécher sous prétexte qu'il y a la grâce. Et ça, Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Le péché, c'est la mort. Et Jésus nous sort de la loi du péché. Nous avons été baptisés, immergés dans l'eau. En sa mort, il nous a donné la vie et en nous sortant de l'immersion dans le péché. Paul ici, en fait, dit la même chose que Jean. Nous sommes morts au péché. Donc on ne peut pas le pratiquer volontairement en affront à Dieu. Avant, nous péchions volontairement. Maintenant, nous voulons vivre comme un enfant de Dieu. Personnellement, avant, quand quelqu'un me faisait du mal, je me plaisais à lui rendre et en plus grande proportion. Quand on m'insultait, j'allais parfois jusqu'à aller frapper la personne. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait 20 minutes de marche parce que je savais que quelqu'un m'avait insulté et j'étais allé juste pour le frapper. Maintenant, Dieu me donne de l'amour, de la compassion pour eux. Je suis triste, non pas parce qu'ils veulent me briser, mais je suis triste parce qu'ils vivent dans les ténèbres, qu'ils s'infligent une vie sans Dieu, alors que Dieu est là à toquer à la porte de leur cœur. Et c'est maintenant infaisable pour moi d'être violent pour une insulte, car ça n'en vaut pas la peine. Dieu nous donne de la considération pour les valeurs de Dieu, et non pour des choses qui caractérisent les valeurs du péché, les valeurs de notre propre personne qu'on a envie de cultiver. La valeur de Dieu, dans cet exemple que je viens de vous donner, est d'aimer ceux qui nous insultent, rejeter les valeurs du péché, je rejette de me venger, maintenant je rejette de vouloir prouver que je suis supérieur aux autres. La deuxième partie du verset 8 nous dit « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable que nous avions fait, qui chaque jour soutenait notre destinée à l'enfer. Mais Dieu nous prédestine pour le ciel, pour voir sa gloire. Il nous rend participants à sa nature divine, comme on l'a lu tout à l'heure. La gloire de Dieu, c'est la somme, la totalité de qui il est. Il n'y a plus rien de glorieux pour nous que d'être enfants de Dieu. Alors même si quelqu'un me fait du mal, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le ciel est ma destinée. Si tu m'insultes, je laisse Dieu gérer cette affaire. Je n'agis plus par moi-même, parce que mon Père me protège. Pourquoi ? Parce qu'il est mon Père. Et Jésus a détruit les œuvres du diable, mais même si je suis encore imparfait, je suis, disons, intouchable spirituellement. Essayez d'attaquer un enfant d'un président de la République. Vous allez voir ce qui vous arrivera. Eh bien, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis assis sur les genoux de mon papa. Pour conclure, le processus de purification est en marche. Loading. On doit être patient. La patience est un fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Parfois, même si on porte des fruits, il y a des pépins. Et même quand il y a des pépins, persévérons. Même si c'est long, difficile, et qu'on passe par des moments de doute et de découragement. En ces temps de patience dans lesquels nous sommes enclavés, on doit espérer en Dieu. Dans ces temps particuliers, vivre en enfant de Dieu, c'est respecter les gestes barrières, c'est protéger du Covid, et protéger les autres en se protégeant. Car quand on se protège nous-mêmes, on protège aussi les autres. On met aussi des gestes barrières pour se protéger du péché. Et en se protégeant du péché, on protège les autres des conséquences de nos péchés. Jésus est d'abord ressuscité pour nous ouvrir la porte de la résurrection, de notre destinée finale. Quand on vit dans le péché, régi par le péché, on vit comme étant enfant du diable. Et c'est pour s'arracher les enfants du diable de ses griffes que Jésus est venu sur terre. On n'est pas moitié enfant de Dieu, moitié enfant du diable, moitié pécheur, moitié saint, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On est pleinement enfant de Dieu ou on ne l'est pas du tout. Mais nous sommes enfants de Dieu et même si nous commettons encore des péchés, on va attendre la grande délivrance. Vivre en enfant de Dieu, c'est aussi, il est évident, se prêcher l'évangile chaque jour en se nourrissant de la parole de Dieu qui nourrit notre prière, notre dialogue avec Dieu. C'est se rappeler que le Fils de Dieu est venu pour porter nos péchés. Il a pris la condamnation de nos péchés à notre place. Il a pris notre place pour que nous soyons purifiés. En fait, c'est comme un gars qui est jugé pour un meurtre et il regrette amèrement et demande pardon au juge pour son acte commis, en reconnaissant qu'il méritera la peine qu'il aura. Et au moment du verdict, 15 ans de prison. Et là, coup de théâtre, un homme ayant entendu sa repentance, inconnu de tous, dit au juge, « Je prends sa peine de prison. Meurtrier, tu es pardonné. La justice est faite. Je paye le salaire, la condamnation. » De ton meurtre. Je pars 15 ans en prison à ta place, même si je suis innocent. Jésus est comme cet homme inconnu qui est venu prendre la peine du condamné pour meurtre. Et le condamné a accepté que cet homme ait pris sa peine. Il est maintenant enfant de Dieu. Faites-vous tester. C'est le thème de notre série sur 1 Jean. Faites-vous tester. Si vous vivez sans Christ, si vous n'êtes jamais détourné de votre péché, que vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu pour vos péchés, pas seulement le penser intellectuellement, mais en prendre conscience dans le cœur que Jésus a payé le prix à notre place. Vous pouvez commencer à vivre comme un enfant de Dieu et entrer dans la destinée glorieuse que le Père nous a préparée depuis toute éternité. Amen. Je vais prier pour conclure. Quelle œuvre immense, Seigneur, de la croix. Je n'ai même pas de mots pour exprimer ma reconnaissance pour ça. moi qui suis de nature destiné à l'enfer, comme le dit Zacharie, chapitre 2, verset 8. Tu es venu à ma place. Je veux te rendre gloire, Seigneur, pour ça. Parce que tu es venu à notre place. Tu nous donnes la possibilité au monde entier de devenir enfant de Dieu. Et je veux te prier pour que tu puisses continuer à nous purifier, à nous transformer, et qu'on avance de gloire en gloire. Même si parfois on a des moments où on stagne, je te prie qu'on puisse rebondir sur ces périodes-là et qu'on puisse les utiliser comme un tremplin pour grandir et être sanctifié par ton esprit. Merci Jésus, parce que tu es le grand Dieu souverain, le Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier dans nos vies. Amen.